Donc merci à tous et toutes d'être là, de vous installer. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Limoges, évidemment une très belle ville avec un patrimoine historique important, et évidemment la capitale mondiale de la porcelaine. Je vous invite quand même à aller découvrir après ces deux jours intensifs, d'aller découvrir le quartier médiéval de la Boucherie et l'église Saint-Étienne, mais aussi cette magnifique gare qui est une des plus belles gares de France, voire d'Europe. J'ose le dire. On est aussi très heureux de vous accueillir ici à l'université, qui était un pôle important d'enseignement supérieur, avec une population étudiante également très importante. Donc, merci aux dernières personnes de s'installer avant que nous invitions Madame Hildirim, vice-présidente du Conseil départemental du 87, en charge de la protection de l'enfance, de la famille et de la démocratie sanitaire, d'ouvrir officiellement ce forum. Et j'ajoute que vous êtes également professeur d'université et conseillère municipale de Limoges. Merci à vous, Madame.
Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi donc d'ouvrir vos travaux à l'occasion de votre forum. C'est un honneur à double titre. Déjà, en tant que vice-présidente en charge, bien sûr, des questions de protection de l'enfance, mais c'est aussi un honneur parce que cette maison, c'est aussi ma maison, puisque j'y travaille, donc c'est cette fameuse faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, où j'ai fait tout mon cursus, et je continue, vous voyez, je suis une éternelle étudiante, puisque je n'ai pas quitté la faculté de droit, où je continue à essayer un petit peu de parler de droit. Donc c'est un honneur de vous accueillir ici, de vous accueillir à Limoges, de vous accueillir dans notre département. J'espère que ce séjour sera peut-être une découverte ou une nouvelle découverte de notre région et qu'elle vous donnera et que ce séjour vous donnera l'occasion de revenir et puis de parler de notre territoire. Alors, je sais, c'est difficile de venir à Limoges. Les questions d'enclavement sont vraiment des sujets prenants chez nous. Et je reconnais quand j'organise des colloques que les collègues me disent que c'est très beau chez toi, mais qu'est-ce que c'est difficile de venir. Ça, c'est l'une des difficultés de notre territoire, mais vous allez voir, avec le séjour que vous allez passer, vous allez oublier ces contraintes et donc ça, vous allez garder un très beau souvenir. Moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été à l'origine de l'organisation de ces deux journées. J'ai par habitude aussi, sur le plan professionnel, d'organiser des colloques, des journées d'études, et je sais ce que c'est. En termes de logistique, d'organisation, de réflexion. Et donc moi, je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes et tout particulièrement, il y a toujours une personne qui est discrète, qui est à la manœuvre. Je voudrais tout particulièrement remercier Sylvia Bourri, qui est quand même la cheville ouvrière, et vous pouvez l'applaudir. Quand même On a eu l'occasion d'en discuter à de multiples reprises et j'ai pu voir vraiment l'engagement, l'investissement qu'elle mettait à l'organisation de ces journées. Donc, merci. Alors, aujourd'hui, pendant deux jours, vous avez parlé de la protection de l'enfance, sujet qui n'est pas simple. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, sujet qui est encore moins simple, j'ai envie de dire. Donc, c'est un vrai défi, en fait, ces deux journées, parce que fait le lien entre ces deux enjeux, ben en fait, ça génère bien sûr un certain nombre d'inquiétudes, mais aussi peut-être de nouvelles perspectives. Vous le savez, et nous on le vit au quotidien, et j'ai aperçu les agents du conseil départemental, on le vit au quotidien, et vous le savez certainement, la protection de l'enfance traverse une crise profonde. Donc on n'en parle pas suffisamment, je trouve, mais c'est une crise qui est profonde, dans la mesure où Donc on le voit, nous, on le constate, on a bien sûr une augmentation du nombre d'enfants qui sont sous notre responsabilité, que ce soit dans le cadre d'un placement ou éventuellement d'une mesure d'assistance éducative. Je vous donnerai un seul chiffre qui est spécifique à notre département. Depuis 2019, on a eu une augmentation de plus de 50% du nombre de placements. Ça, c'est une réalité. Et puis, on le sait, les enfants que l'on a sous notre responsabilité sont sous des multiples, ce qu'on appelle peut-être dans un jargon qui est peu compréhensible pour certains, mais les vulnérabilités multiples, c'est-à-dire que, bien sûr, ces enfants souffrent de difficultés éducatives, mais aussi d'autres troubles qui nous remettent, bien sûr, qui nous interrogent, qui nous interpellent, qui nous poussent à renouveler nos pratiques. Et face à cela, les départements, vous le savez, sont chefs de file. Ils ont cette responsabilité d'organiser la protection de l'enfance sur un territoire. Et vous le savez, les départements sont confrontés aussi à des difficultés. Alors, sachant que, comme ce sont des politiques départementales, il faut aussi le dire, parfois, en fait, on a des inégalités territoriales parce que vous avez des départements qui font beaucoup, d'autres qui font moins, des départements qui ont des moyens budgétaires, d'autres qui ont moins de moyens, et donc ça crée des inégalités qui sont inacceptables. Moi, je vais vous dire, pour notre département, nous avons fait le choix de donner la priorité à la protection de l'enfance. Et depuis plusieurs années, c'est toujours compliqué de parler d'argent quand on parle de ces jeunes cabossés par la vie, qui sont en grande souffrance, qui ont subi des traumatismes. Mais il y a aussi l'aspect budgétaire. Nous, en tant qu'élus, on a la responsabilité aussi de voter des budgets en équilibre. On ne peut pas, en tant que collectivité locale, faire des déficits. Mais en fait, c'est aussi des choix politiques. Nous, en Haute-Vienne, on a fait le choix politique, tout simplement, d'investir dans la protection de l'enfance. En 2023, on a pris une décision, une délibération, on a voté une délibération historique avec des créations de MECS, de places supplémentaires, la priorité accordée à la prévention. Et donc, on a rajouté quelques millions d'euros pour la protection de l'enfance. Alors, ce choix a été fait par notre collectivité. Je sais que dans d'autres collectivités, il y a eu d'autres choix, parce que peut-être qu'on n'a pas les moyens, peut-être que aussi les considérations politiques jouent, il faut le dire, en fonction des orientations politiques, les choix ne sont pas les mêmes. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la situation de la protection de l'enfance. Vous voyez, moi, alors c'est peut-être mon côté universitaire qui veut ça, je me pose beaucoup de questions, et je m'interroge sur les causes de cette situation. Parce que si on veut réfléchir à des solutions, encore faut-il, bien sûr, identifier les causes. Et si on veut que l'IA soit en appui, peut-être, de cette politique publique, il faut qu'on réfléchisse sur les causes. Et vraiment, encore aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Bien sûr, on identifie mieux. Donc aujourd'hui, on repère mieux. C'est à l'image aussi de notre société qui va mal. Peut-être qu'aussi, donc les mesures d'économie, et vraiment, là-dessus, moi qui ai fait de l'associatif avant d'être élu, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité collective sur le fait qu'on a peut-être fait des économies sur des structures qui étaient là aussi en amont pour accompagner les familles. Je pense par exemple à toutes les associations, ce qu'on appelle l'éducation populaire. À force de réduire les subventions, à force de supprimer les contrats aidés, mais en fait, on a, à force de complexifier les procédures pour obtenir la moindre subvention, on a peut-être dissuadé des personnes bénévoles qui s'engageaient au quotidien dans nos quartiers, dans nos territoires ruraux, et ce qui fait que tous ces acteurs qui étaient essentiels, qui connaissaient les familles, disparaissent ou sont en difficulté, et donc vous n'avez plus cette prévention en amont qui accompagnait les familles. Et je suis convaincue que c'est l'une des raisons, c'est pas la raison, mais c'est l'une des raisons qui explique qu'aujourd'hui, lorsque on accueille un enfant en protection de l'enfance, il est dans une situation extrêmement complexe, et quelque part c'est même trop tard, et ce qui explique que les juges partent automatiquement vers un placement, alors qu'on aurait pu penser qu'il y a d'autres mesures qui devraient être mises en place. Et donc ça doit quand même, en tant que responsable politique, et ça vise tous les acteurs, ça doit quand même nous interpeller sur l'état de notre société et sur les priorités politiques qu'on a pu prendre à des moments donnés. Parce que certes, ça a été des économies sur le moment, mais cette situation va nous revenir en boomerang. Et je vous assure que là, sur le plan budgétaire, il faudra largement mettre les moyens qu'on a voulu économiser ces dernières années. Donc voilà un petit peu la situation. Et puis la protection de l'enfance, vous le savez, c'est pas uniquement le département, c'est tous ces acteurs. Donc bien sûr l'éducation nationale, le monde de la santé, le monde de la justice. Et on constate une chose, c'est que ces acteurs sont aussi en difficulté. Et lorsqu'on a besoin d'accompagnement, par exemple, par la pédopsychiatrie, eh bien, en fait, on se retrouve face à une difficulté. Par la justice, là encore, on se retrouve face à une difficulté. On en a parlé mardi, donc par rapport à la difficulté, notamment des juges des enfants qui sont trop peu nombreux et les mesures qui sont prononcées ont du mal à être exécutées rapidement parce que les moyens de la justice sont aussi limités. Donc voilà un petit peu la situation aujourd'hui. Et la question que vous allez vous poser pendant 2 jours, c'est est-ce que l'IA peut être une solution ? Alors, moi, en tant qu'universitaire, sur d'autres sujets, bien sûr, on réfléchit sur les questions d'IA parce que c'est une question qui soulève, bien sûr, des difficultés juridiques, essentiellement, j'ai envie de dire, parce que la question de l'IA, ça peut être un formidable, bien sûr, atout, une formidable révolution, mais l'IA présente des risques importants, donc parce que c'est peut-être aussi un outil qu'on a du mal à cadrer, qu'on a du mal donc à percevoir dans ses conséquences, notamment sur le plan de l'atteinte à la vie privée. Il y a toute la question, bien sûr, de la préservation des données, de la protection des données, des enjeux aussi économiques, parce qu'au fond, peut-être que le devenir de nos emplois sont en jeu. Donc, quelque part, la machine peut éventuellement nous remplacer. Donc, c'est pour ça que la question de l'IA, c'est un sujet majeur aujourd'hui et qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait un engagement, j'ai presque envie de dire mondial, parce que c'est même plus à l'échelle de la France, pour essayer de canaliser, de prendre les aspects positifs, mais de canaliser l'IA, parce qu'à un moment donné, la machine remplacera l'homme si véritablement on ne fait pas attention. Et donc, pour ce qui est de la protection de l'enfance, ça peut être un atout, ça peut permettre éventuellement de mieux accompagner les jeunes qui nous sont confiés. Mais quand on a un sujet aussi sensible que la protection de l'enfant, il faut être, je ne sais pas quelle sera la conclusion de vos 2 journées, mais il faut être extrêmement prudent, bien sûr, dans l'usage de l'intelligence artificielle. Ça doit être un appui pour nos professionnels, ça doit être un appui, bien sûr, pour tous les acteurs qui interviennent sur le sujet de la protection de l'enfance, mais surtout, ça doit être au service de cet objectif ultime qui est bien sûr la protection de l'enfance et que ça doit contribuer à faire en sorte que cette politique publique, qui pour moi est la plus noble, qui est une sacrée responsabilité pour une société, soit à la hauteur de l'enjeu et que dans toutes ces considérations, l'enfant reste au centre de toutes les préoccupations. Voilà un petit peu ces quelques mots que je voulais vous dire à titre introductif. Je voudrais à nouveau vous remercier, vous tous, pour tout ce que vous faites au quotidien, parce que la protection de l'enfance, c'est une chaîne, c'est de mains qui se tendent vers cet enfant qui souffre. Et sans cette cohésion, sans cette synergie collective, on n'y arrive pas et on n'y arrivera pas. Donc merci à tous et je vous souhaite un bon forum. Des réflexions fructueuses et puis surtout une préoccupation commune, à savoir que ces 2 journées nous permettent de nous remettre en question, mais surtout nous permettent d'être aux côtés de ces jeunes qui comptent sur nous. Merci.
Merci beaucoup, madame. Beaucoup de choses intéressantes dans votre discours. Je vais demander à Laurent Chebel, présidente du CNDPF, de poursuivre l'ouverture de ce forum.
Mesdames, Messieurs, chers invités, chers intervenants, chers participants, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux à l'ouverture de ce forum édition 2025 consacré à un thème à la fois passionnant, controversé, crucial et d'actualité, l'IA générative au service de la protection de l'enfance. Avant de commencer, je voudrais remercier Madame Ildirim de sa présentation passionnante. Elle est donc vice-présidente du conseil départemental de Haute-Vienne. Je la remercie pour sa présence à l'ensemble de nos journées et de l'intérêt qu'elle a eu pour ces deux journées. Pour accueillir une si belle assemblée, il nous fallait tout d'abord une salle. Aussi, je remercie chaleureusement le directeur de l'université, Monsieur Vincent Jolivet, pour la mise à disposition de cet amphithéâtre qui nous permet de vous accueillir dans d'excellentes conditions. J'adresse également mes remerciements à la municipalité de Limoges qui a ouvert exceptionnellement la salle Augustorium où nous prendrons les repas de ces deux journées. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, je veux remercier Madame Bérangère Tailleux, consultante, qui a conduit et facilité nos réflexions dans la conception de ce forum. Elle sera notre fil rouge, mais elle aura également la responsabilité d'être la gardienne du temps. C'est pas toujours facile. Merci Bérangère. Un grand merci aussi particulier à Daniel Barraud, notre régisseur bénévole, petite main de l'ombre, mais qui facilite la coordination et l'enregistrement de ses propos, de tous les propos de nos éminents intervenants que vous pourrez par la suite retrouver sur notre site www.cndpf.fr. Mais vous le connaissez tous par cœur, j'en suis sûre. Merci à tous nos intervenants de nous partager leur savoir sur un sujet aussi pointu et pressant au quotidien dans nos vies, l'IA générative. Je suis honorée de pouvoir partager leur expérience, leur savoir. Merci également à nos invités, nos partenaires et bien sûr à vous participants, venus nombreux pour enrichir ces échanges par vos regards, vos pratiques, vos questionnements. Un bravo, et je rejoins Madame Ildirim, particulier à Sylvia Bourri et son équipe, qui ont permis d'accueillir le forum dans cette belle ville de Limoges. Un pari audacieux, un déplacement pas toujours facile, surtout en temps de grève, mais qui laissera, j'en suis certaine, un souvenir impérissable. Ces deux journées se veulent avant tout interactives et vivantes. C'est pourquoi un temps consacré aux questions avec la salle sont prévus. Après chaque intervention, pour faciliter votre prise de parole, parce que je sais que quand le moment des questions arrive, c'est un grand silence, vous pourrez flasher un QR code et poser vos questions. Vous le verrez apparaître en tout cas. Elles seront relayées par Bérangère et moi-même. Nous souhaitons que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous puisse se sentir acteur de ce forum. Vraiment, on compte sur vous. Le sujet que nous allons aborder touche à l'essentiel et prend une place progressivement considérable dans nos métiers. Comment l'intelligence artificielle peut-elle soutenir les professionnels, aider les familles et ouvrir de nouvelles perspectives tout en restant au service du lien humain et de l'éthique ? Les réponses ne sont pas simples, Madame Ildirim en a dit quelques mots, mais ensemble, par le partage de nos idées, de nos expériences et en gardant un esprit critique, je suis sûre que nous pouvons éclairer ce chemin. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée de réflexion, enfin deux belles journées de réflexion, de partage et de perspectives communes dans un esprit d'ouverture et de co-construction. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement.
Donc le thème de la journée, l'apport de l'IA générative au service des professionnels. Aujourd'hui, ça sera au service des professionnels et demain, plus particulièrement, au service des familles. Juste une petite anecdote. Au Japon, une affaire est survenue en 2023 et a été largement médiatisée en raison du décès d'une petite fille de 4 ans. En fait, au Japon, parce que manque de professionnels, manque de professionnalisation, c'est une IA générative qui gérait les informations préoccupantes. Malgré des inquiétudes prononcées de la crèche et d'un certain nombre d'intervenants sociaux, l'IA générative n'a jamais pris en compte les difficultés concernant cette petite qui avait la maman avait un relationnel avec cet enfant extrêmement compliqué. Elle n'arrivait pas à accepter cet enfant, qu'elle nourrissait très peu, qu'elle avait enfermé dans une pièce à part et qui n'était ni lavée, ni à qui on n'apportait pas de soins. En fait, pourquoi l'IA générative ne s'est pas inquiétée de la situation de cet enfant ? Parce que l'IA générative prenait en compte des éléments factuels, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des bleus, est-ce qu'il y avait des marques sur le corps de cet enfant, elle ne prenait en compte que des points spécifiques, ce qui fait que personne ne s'est inquiété de cet enfant, et en fait elle est décédée. En fait, à ce moment-là, le gouvernement s'est un peu reposé des questions et malgré un investissement colossal concernant cette procédure, en fait la mise en place de cette IA générative, ils ont totalement arrêté pour redonner aux professionnels de l'enfance le soin d'étudier les IA et notamment sur la question de la perception, puisque l'IA générative aujourd'hui, en tout cas ce que le Japon a mis en place, n'avait pas cette notion de la perception, de ces éléments indicibles qui font qu'à un moment donné, on se pose la question et on va voir. Alors, évidemment, la différence avec la France, c'est qu'au Japon, ce ne sont pas des professionnels formés, c'est-à-dire que c'est des personnes d'État qui font ce travail, mais n'ont pas une formation spécifique. En tout état de cause, le Japon a décidé complètement d'arrêter cette mise en place et a redonné à l'humain le soin de faire, de détecter la question de l'information préoccupante et de savoir si l'enfant est en danger. Donc autour de cette anecdote, si je puis dire, voire même c'est plus qu'une anecdote, c'est un fait important. Ça repose la question en France, effectivement, l'entrée de l'IA, comment on va s'en servir, et pas qu'en France, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise aujourd'hui et comment on se sert de l'IA en France et quelles sont en fait les protections qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour ce genre d'outils au sein de la protection de l'enfance. Ce qui m'avait quand même semblé un tout petit peu intéressant dans l'expérience du Japon, c'est que la critique principale qui avait été formulée, c'est que l'être humain avait donné totalement confiance à la machine et ne se remettait même plus en cause. C'est-à-dire que la question de la machine, on lui prêtait un pouvoir, l'être humain lui prêtait un pouvoir, ce qui faisait qu'à un moment donné, on se remettait même plus en question. Et ça avait été une des grosses critiques qui avait été apportée dans cette expérience au Japon.